RFI, grand reportage.
La Philharmonie de Paris a ouvert ses portes le 14 janvier dernier avec un concert inaugural dans la grande salle de 2400 places. Ce nouveau lieu de résidence pour les orchestres est idéal pour la musique symphonique, mais il accueille aussi du jazz, de la chanson, du rap, avec pour critères l'excellence et la transmission. C'est un grand reportage de Priscille Lafitte réalisé en janvier dernier et qui est donc rediffusé cet été.
Premier raccord de l'Orchestre de Paris dans la grande salle de la Philharmonie et première répétition avec une pièce du compositeur Henri Dutilleux, au violon Renaud Capuçon. Renaud Capuçon, elle sonne comment cette salle ?
Elle sonne bien. Je pense que l'acoustique est à la fois claire, lumineuse et ronde à la fois. Ce qui fait beaucoup de qualificatifs positifs pour une nouvelle salle. C'est vrai qu'on avait tous envie qu'elle sonne bien. Mais en même temps, on peut jamais savoir à l'avance. On se sent très bien sur scène et en même temps, elle rayonne et on entend très bien dans la salle. Donc c'est pari gagné.
Le concert inaugural marque l'aboutissement de 10 ans de polémiques et 6 années de travaux qui ne se sont tus que quelques instants avant l'ouverture. Il reste encore quelques peintures à terminer, de la décoration à peaufiner. L'enveloppe extérieure du bâtiment n'est toujours pas finie. La grande salle elle-même a été achevée in extremis et les tests acoustiques ont été repoussés sans cesse, jour après jour. Mais les qualités de la salle sont déjà là. Le son est analytique, précis, tout en étant puissant et enveloppant. Rien n'a été laissé au hasard dans la structure et l'ameublement de la salle, en particulier le plafond. Emmanuel André est directeur de production à la Philharmonie.
Vous voyez, ce sont des formes assez organiques et ondoyantes, trouées pour laisser passer l'éclairage symphonique, mais qui doit pouvoir se remonter suffisamment haut pour pouvoir créer un effet plus intime, au contraire plus large, en fonction de la masse orchestrale qui sera disposée sur la scène. C'est quelque chose qui se règle, et le moment des premiers essais acoustiques va être fait avec l'équipe des acousticiens, Marshall Day, de manière à pouvoir trouver le meilleur angle en fonction de la musique, du répertoire et de la masse des musiciens qui est au sol. L'autre particularité, c'est d'avoir des balcons suspendus, c'est-à-dire ils ne sont pas collés au mur. On peut le voir ici, vous vous trouvez derrière un balcon. En réalisant combien il est effectivement, au sens premier, suspendu et simplement rattaché par les gaines d'arrivée du public. Mais la trouée qui subsiste entre le balcon et le mur permet à l'air, mais également à l'onde musicale, de pouvoir investir tous les lieux de cette salle, un petit peu comme dans un instrument, comme si vous étiez à l'intérieur d'une boîte de violon. J'ai l'impression que le son est dans une totale liberté et peut immerger le public devant lui, bien sûr, mais aussi derrière lui, au-dessus de lui, en dessous de lui, partout.
Moi, j'ai toujours travaillé dans le champ musical.
Laurent Bayle, président de la Philharmonie.
Et j'ai toujours était attiré par la haute qualité, si vous voulez, la dimension internationale, le rayonnement international, le fait d'avoir dans ma vie rencontré des salles à l'acoustique exceptionnelles, d'ailleurs issues d'époques différentes, soit historiques comme le Musikverein de Vienne, soit modernes comme la Philharmonie de Berlin, par exemple, qui a été conçue au début des années 1960. Mais je mettrai cet élément en regard avec une autre dimension qui est vraiment la raison d'être de cet équipement, à savoir la nécessité d'innover, de proposer un nouveau modèle de transmission de la musique. Ça n'est pas une salle de concert, c'est beaucoup plus.
Avec le bouton qui est là, tu le montres ? Et là, si on veut amplifier, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de caisse de résonance, alors il faut allumer le volume. Comme tout à l'heure, je touche la corde et puis ensuite, regarde.
Pas trop entre les deux.
Nous sommes dans un atelier pédagogique avec une classe de petite et moyenne section de maternelle. La vision de Laurent Bayle, qu'il a lui-même hérité du compositeur Pierre Boulez, c'est de sortir la musique classique de ses habitudes, de ses pantoufles, bref, de son côté imposant. La philharmonie mise beaucoup sur la transmission.
Moi, je vais vous raconter une histoire qui se passe il y a très 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 longtemps pour commencer à vous expliquer comment on a inventé tous les instruments avec des cordes. Une histoire qui se passait très 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 longtemps, figurez-vous, au temps des hommes préhistoriques. Ils passaient leur journée à chasser, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de supermarché pour acheter un steak haché, ok? Alors, ils chassaient avec plein de choses, avec des cailloux, des lances, des filets, des pierres, des haches, tout ça. Et un jour, ils ont inventé les...
Les arcs.
Figurez-vous, il avait beaucoup marché, traversé les montagnes et les forêts, il avait beaucoup chassé, il était bien fatigué. Il s'est assis dans un coin de sa caverne. Et il s'est mis à bailler, comme si il regardait ce qui s'est passé quand il s'est mis à bailler. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ouais.
J'ai mis... Alors presque dans la bouche, j'ai mis la corde de l'arc juste devant ma bouche. Et quand je mets la corde de l'arc comme ça, juste devant ma bouche, le son de la corde de l'arc rentre dans ma bouche, il se promène dans ma bouche, et quand il ressort, il est plus fort. On dit qu'il résonne dans ma bouche. Je vous montre.
Marie-Hélène Serra est responsable du pôle pédagogique à la Philharmonie.
C'est un lieu où on peut vivre le week-end avec la musique et si on est dans la case parents, et ben c'est en éveillant ses enfants à la musique. Si on est dans la case adulte entre amis, ben c'est par exemple l'après-concert, on va discuter de ce qu'on a ressenti au concert dans une formule qu'on a appelée la tribune, qui est une sorte d'émission radio qui sera podcastée. Ce sont des choses comme ça qui visent beaucoup... à créer des rapports à la musique sous le mode du partage, hein, vous voyez. Quand les familles pourront faire, par exemple, un atelier de découverte des instruments du monde classique, ça sera en mode collectif. Tout le monde va avoir un violon et jouer même une petite chose. Mais le tout, c'est de ressentir la musique dans son corps, je dirais.
Il y aura donc 3 fois plus d'ateliers de ce type qu'il y en avait jusqu'ici à la Cité de la Musique. La Philharmonie aura aussi un restaurant avec une vue sur tout Paris, une buvette au niveau du parc, des salles d'exposition et la possibilité de marcher sur le toit. Et puis, des salles annexes, dont une très grande qui peut accueillir tout l'orchestre de Paris pour une répétition, des masterclass, un studio d'enregistrement et aussi du public. C'est là que se retrouvent les 150 choristes du chœur de l'Orchestre de Paris.
Ressemble cette salle de répétition?
Elle est grande, elle est lumineuse, elle est magnifiquement ouverte sur l'extérieur, même si la nuit ça ne se voit pas.
Lionel Sceau, chef de chœur.
Et avec des panneaux acoustiques mobiles, ce qui permet aussi de réguler l'acoustique de la salle, donc ça c'est formidable. Et les gradins pour le public, c'est une salle qui peut accueillir du public et qui permettent quand même de faire des répétitions chœur-orchestre, ce qui est vraiment. Une salle de répétition de cette taille, à Paris, il y en a très peu. Donc c'est vraiment un confort formidable. Ah, et c'est 2 fois trop fort. Voilà, on a la farce, vous savez, c'est comme dans la dinde. C'est les ténors. Alors, et il faut un petit peu plus de farce. Encore le dernier accord, s'il vous plaît.
La Philharmonie de Paris n'a pas beaucoup d'équivalent dans le monde, et elle rencontre beaucoup de détracteurs. Il y a ceux déjà qui ne veulent pas quitter la salle Pleyel où résidait jusqu'à maintenant l'Orchestre de Paris. C'est une salle art déco dans un quartier cossu du 8e arrondissement de Paris où un public aisé et cultivé a ses habitudes. Et certains ne veulent pas les changer, leurs habitudes, surtout pour se rendre à la Villette, dans un quartier où ils n'ont pas leurs repères.
Ça m'embête énormément parce que j'habite de l'Ouest et pour y aller, ça va être très difficile.
Oui,
ça va être très difficile et je me pose la question de savoir si je vais les suivre. Je ne sais pas encore. Je peux peut-être prendre un autre orchestre, je ne sais pas. Oui, carrément. Oui, parce que pour nous, c'est vraiment inaccessible. Je ne sais même pas encore comment on peut y aller. Tu sais comment on peut y aller?
Non, je n'irai jamais.
Et je pense que la salle de la Philharmonie va être très belle. Par curiosité, vous ne voulez pas tester l'acoustique?
Je vais peut-être tester cet été, enfin l'été prochain.
Ce que j'en pense, c'est que c'est dommage. Enfin, c'est bien d'avoir une belle salle. C'est dans un quartier qui n'a pas beaucoup d'animation. Et quand on est habitué, comme madame, depuis des années à venir ici, bien, ça nous fait un petit quelque chose.
Non, ne pas y aller, ce serait idiot. Ne pas y aller par dogmatisme comme ça, en disant « moi, je ne viens qu'à Pleyel », ce serait idiot. Mais les gens qui vous disent aujourd'hui qu'ils n'iront pas, ils iront quand même.
Urbanistiquement, je trouve la Philharmonie, c'est formidable. Et la Cité de la Musique, j'adore. Mais socialement, glamoureusement, citadinement, à mon avis, c'est un concept absurde. Parce que les jeunes du quartier n'en ont rien à faire. Et les vieux, ils vont préférer rester à la maison pour se faire un DVD.
Moi, de toute façon, partout où il y a de la bonne musique, c'est bon. Hein. Je me dis, moi, ça m'est égal. Maintenant, je suis à la retraite, donc je peux faire la grasse matinée le lendemain si je rentre tard le soir.
Mais Pleyel a fermé ses portes et les rouvrira pour du jazz ou de la danse, mais pas pour du symphonique. C'est un grand chamboulement dans la vie musicale parisienne qu'opère la Philharmonie. Au risque de perdre certains abonnés de longue date aux concerts classiques, le pari est d'ouvrir la musique dite savante à de nouveaux publics, de prendre par la main ceux qui habitent les quartiers défavorisés pour les amener au concert, en mélangeant dans un même lieu pop et classique, rap et contemporain, baroque et jazz. C'est la vision qu'a Laurent Bayle.
On a besoin de modèles. On ne peut pas construire une société la plus ouverte qu'on veut, la plus généreuse qu'on veut, si on n'a pas quelques idées en tête, quelques points d'inscription. Qu'est-ce que vous constatez en musique? Vous n'êtes pas frappé par le fait que, plus que dans tout autre art, il y a un cloisonnement. Prenez un mot générique, musique classique, il ne veut plus rien dire. Vous avez l'expression baroque, vous avez ceux qui se consacrent uniquement au XIXe siècle, et puis ceux qui devront se consacrer aux contemporains. Bon, vous lui dites, tiens, c'est peut-être mieux dans le champ des musiques dites populaires. Pas du tout. Tel courant de jazz, la musique techno, pop, oui, mais attention, ça c'est pas la même pop que celle-là, les musiques du monde, etc., etc. Pourquoi pas? Mais s'il n'y a pas quelques lieux modèles qui essayent de relier ce que nos usages ne cessent de diviser, alors vous avez une société, au final, qui a tous les atouts pour réussir, sauf un, il n'y a pas de vision. Il faut une vision, ça passe par des décisions courageuses. Je ne peux que dire que je suis fier de pouvoir être dans un pays où cela est encore possible.
C'est donc une vision en grand que défend la Philharmonie. Et si elle tient sa programmation et ses tarifs attractifs, le pari pourrait être gagné. En dédiant son concert inaugural aux victimes de Charlie Hebdo, de Montrouge et de la Porte de Vincennes, la Philharmonie s'inscrit dans l'histoire. Et en interprétant le Requiem de Fauré, peut-être l'œuvre la plus lumineuse qu'on puisse offrir à une nation en deuil, l'Orchestre de Paris marque les lieux d'une émotion forte. L'ouverture de la Philharmonie de Paris, un grand reportage de Priscille Lafitte, à la réalisation Marc Minatel.
on se quitte en musique comme chaque jour avec aujourd'hui la chanteuse Souad Massi qui fait partie de la sélection du mois de nos programmateurs avec ce titre Saïch, extrait de son dernier album. Pour plus d'informations, nous vous invitons à retrouver toutes les actualités musicales sur notre site internet rfimusique.com.
وأسهر في دنيا المشاعر حالما غردا وتلك سعادات الشعراء أصغي لموسيقى الحياة ووحيها وأذيب روح الكون في إنشائي وأصيخ للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصداء يحيي بقلبي ميت الأصداء
السري فوق القمة في الشمع أرنو إلى الشمس.